Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Anne-Sophie Nardi. Elle est la fondatrice de la merveilleuse marque de cosmétiques On The Wild Side. C'est au fil de ses lectures et de ses recherches qu'Anne-Sophie a découvert l'univers passionnant de la cueillette sauvage. Persuadée qu'une autre cosmétique est possible, elle a imaginé une gamme de soins 100% naturels, sans aucun ingrédient issu de la pétrochimie. Aujourd'hui, Anne-Sophie nous raconte son histoire et je suis certaine que son récit vous inspirera. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Très bien. Pas trop fatiguée après ce trajet jusqu'à Paris ?
Non, écoute, je suis ravie d'être là ici et de pouvoir échanger avec toi.
Ça me fait très plaisir. J'ai découvert ta marque assez récemment. Ça m'intrigue beaucoup. On a plein de sujets à aborder. Donc tu as créé une marque de cosmétiques. Est-ce que d'abord tu peux commencer par te présenter ?
D'accord. Donc, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 40 ans. J'ai créé, donc, il y a un an et demi, la marque de cosmétiques On The Wild Side. Donc, pour te raconter un peu mon parcours, en fait, j'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans les cosmétiques. D'abord chez L'Occitane pendant 5 ans et après chez L'Oréal pendant 7 ans.
Tu occupais quel poste ?
Alors, j'étais dans les directions marketing. Donc, voilà, quand je suis partie de chez L'Oréal, j'étais directrice marketing. Dans la partie développement produit, donc tout ce qui est univers de marque, développement produit, dans la structure internationale au siège. Voilà, j'ai toujours travaillé à Paris. Et en fait, il y a maintenant 3 ans, gros changement de vie. On a voilà une décision familiale. On a décidé en fait de quitter Paris pour venir s'installer à Bordeaux pour privilégier plus la qualité de vie, avoir un côté plus slow dans nos rythmes effrénés, et puis aussi pour se rapprocher de la nature. Voilà, et notamment de l'environnement bord de mer, voilà, qui était vraiment aussi important pour nous. Et du coup, pour moi, c'était aussi l'occasion voilà, de réfléchir à ce que je voulais faire après L'Oréal. D'autant plus que je sentais que c'était voilà, la fin d'un cycle aussi. Ça faisait depuis 7 ans que j'y étais et que j'avais envie vraiment de me tourner vers autre chose.
Et quelle place occupaient donc les cosmétiques et le monde de la beauté ? Ça a toujours été ta vocation ou tu t'es retrouvée chez L'Occitane un peu par hasard ?
Alors, c'est assez marrant que tu me poses cette question. En fait, moi, ma mère est pharmacien et elle avait sa pharmacie. Et en fait, on habitait au-dessus de sa pharmacie. Donc, j'ai passé toute mon enfance, en fait, dans sa pharmacie. Et à l'époque, en fait, elle faisait ce qu'on appelle des préparations. Donc, c'était des prescriptions, enfin voilà, des pommades, des crèmes prescrites par des dermatologues. Et elle avait une paillasse de laboratoire, en fait, dans sa pharmacie et où elle faisait les crèmes, donc ces préparations-là. Donc, je la voyais, voilà, dans son peser tous les ingrédients, notamment les poudres, les huiles, voilà, pour et ensuite les mélanger dans son mortier, un peu à l'ancienne, hein, finalement, pour bah, voilà, faire ses préparations. Et c'est vrai que ça m'a toujours fascinée, en fait, ce que je voyais déjà, voilà, c'est le côté formule, même texture, sensorialité. Du coup, ça m'est venu, je pense, de là. J'ai un peu éteint tout ça ensuite, parce que dans mes études, j'ai fait une école de commerce. Au grand désespoir d'ailleurs de ma mère qui n'avait qu'une envie, c'est qu'on reprenne derrière sa pharmacie. D'autant plus en fait que c'est une histoire familiale parce que cette pharmacie était déjà mes grands-parents, donc il y avait un peu une tradition. Voilà, je pense que c'est un peu dans nos gènes quand
Personne
même.
Personne n'a repris.
Non, non. Mais bon, je continue un peu à écrire l'histoire à travers On The Wild Side. Et voilà, et puis en fait, à la sortie d'école, voilà, j'avais plus en fait surtout envie de me tourner vers une société qui me parlait dans ses valeurs. Et voilà, à l'époque, l'Occitane mettait beaucoup en avant le côté justement nature, le côté respect des savoir-faire. Ça et en même temps aussi entrepreneurial, et je pense que c'est déjà quelque chose que j'avais en tête à ce moment-là. Et du coup, je me suis tournée, j'ai eu une opportunité en fait de rentrer chez l'Occitane, d'abord en stage, et ensuite ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Il y avait aussi un côté très émotionnel, sensoriel, qui me plaisait beaucoup, parce que même si j'ai fait une école de commerce, je pense que j'avais aussi une certaine sensibilité à exprimer, et que du coup je retrouvais bien dans cette, à la fois dans la fonction marketing et à la fois dans cet univers des cosmétiques.
Et qu'on retrouve aujourd'hui dans tes gammes de produits cosmétiques.
Exactement, enfin, c'est vraiment quelque chose moi, qui me tient énormément à cœur, c'est que le produit cosmétique, c'est pas qu'un produit fonctionnel, c'est vraiment aussi de donner vraiment du bien-être, du plaisir bien sûr, mais surtout du bien-être aux femmes. Et ça, je pense que ça passe beaucoup par le fait de prendre soin de soi, mais aussi par l'émotion qu'on peut transmettre et véhiculer à travers le produit, que ça soit dans la forme et dans l'objet, dans le design, l'esthétisme, et puis aussi dans la sensorialité des textures.
Et au-delà de la sensibilité que transmet un produit, est-ce qu'il y avait aussi la dimension écologique qui t'intéressait ou c'est arrivé plus tard quand tu as commencé à mûrir le projet ?
Alors, je pense que la sensibilité écologique, en fait, elle est venue petit à petit. Comme je te disais, chez l'Occitane, j'ai été très éveillée, on va dire, à tout ce qui est approvisionnement matières premières, voilà, au savoir-faire aussi de récolte. J'étais partie parce que à l'époque je travaillais sur les parfums, donc on travaillait avec des parfumeurs qui étaient à Grasse et donc de vieilles maisons de parfums qui avaient déjà leur filière en fait d'approvisionnement de matières premières. Et donc chaque année j'allais à Grasse pour aller voir justement les champs de jasmin, de roses et la récolte, et donc j'ai déjà, j'étais au cœur si tu veux de ce côté cette approche botanique on va dire des choses, qui d'ailleurs je fais aussi un parallèle avec la pharmacie de ma mère, parce que c'est une pharmacie en fait de 1700 et quelques, où il y avait encore tous les vieux pots à pharmacie. Et du coup, ces vieux pots aussi, c'était les plantes médicinales. J'en ai encore aujourd'hui chez moi. C'est un peu des objets. Voilà, je pense qu'on a tous un peu comme nos Madeleine de Proust, nos objets mythiques qui ont marqué notre enfance. Et voilà, j'avais un pot du coup que j'ai récupéré qui était la racine de patience, par exemple. Enfin voilà, ces espèces d'ingrédients botaniques assez qui fascinent, au pouvoir un peu magique, qui ont des vertus médicinales. Voilà, ça m'a. J'ai été assez branchée sur ce sujet-là. Et j'allais dire, après, je pense que en fait, c'est quand j'ai pensé la création de On the Wild Side, au départ, je l'ai pensé d'un point de vue formulation. Avant tout, parce que j'étais en plus tombée sur une étude, disons que une femme, chaque année, absorbe 2 kilos de produits toxiques. Plutôt synthétique et potentiellement toxique à travers ses soins de la peau. Et je me disais, mais en fait, on a une responsabilité énorme en tant qu'acteur de la cosmétique, c'est qu'on a un impact direct sur la santé des gens. Et ça, moi, ça m'a fait réagir.
Donc ça, tu l'as réalisé quand tu étais chez L'Oréal ou...
Alors, j'ai commencé à le comprendre chez L'Oréal. Après, c'était une culture aussi... Je pense que c'est aussi lié à des airs, à des phases. On a été dans l'ère de la pétrochimie, du progrès, voilà. Donc finalement, c'était des cultures aussi où les conservateurs synthétiques, par exemple, ça permet de vraiment protéger les formules, etc. Enfin, en fait, au fil des années, je voyais qu'il y avait de plus en plus de substances qui étaient pointées du doigt. Et c'était toujours des substances synthétiques. Et voilà. Et en même temps, je trouvais que c'était hyper compliqué d'avoir une lisibilité claire, en fait, des bons et des mauvais ingrédients. Et donc, c'est pour ça que mon parti pris, ça a été dès le départ de se dire, on va le challenge, ça va être de faire du 100% naturel sans aucun ingrédient issu de la pétrochimie. Et c'est ça, en fait, la nouvelle ère dans laquelle, en fait, la beauté doit s'engager aujourd'hui et de montrer qu'on peut le faire. Et d'autant plus que j'étais assez branchée, du coup, sur, quand j'étais chez L'Oréal, sur toutes les nouvelles marques, notamment aux États-Unis, tout ce nouveau phénomène qu'on appelle indie brand, donc de ces nouvelles marques alternatives, qui arrivaient à faire des formules aussi en 100% naturel.
Par exemple, Tata Harper,
exactement,
ce genre de marque.
Exactement. Et en fait, je me disais, bah, nous, en France, on a des fleurons de la cosmétique. Il faut aussi qu'on soit les leaders qui prennent le mouvement et qui ouvrent le chemin. Donc voilà, donc c'est ça aussi, au départ, qui m'a donné l'impulsion. Après, je voulais vraiment aussi éviter le greenwashing, parce que je voulais vraiment aussi remettre de l'authenticité au cœur de la création cosmétique, que ça soit en tant que marque ou en tant que produit. Et c'est pour ça qu'un jour, je suis tombée en fait sur un article parlant de la cueillette sauvage. Et ça m'a fait tilt, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le rapport le plus pur, en fait, et le plus sincère à la nature. Ce sont ces gens, en fait, qui vont cueillir directement la plante dans son écosystème naturel, dans son environnement, à l'état sauvage. Voilà. Et donc, ça a éveillé quelque chose en moi, une certaine curiosité. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à la cueillette sauvage. Donc, tout simplement taper cueillette sauvage sur Google, hein, pour ça a commencé comme ça. Et puis là, donc, je suis tombée sur une association, c'est l'association française des cueilleurs de plantes sauvages, que j'ai contactée, du coup, pour mieux les connaître, pour connaître aussi leur savoir-faire, ce qu'ils faisaient exactement. Voilà. Et en fait, j'ai découvert un monde, un univers et des gens passionnants qu'on ne voit pas souvent, en fait. Parce qu'ils sont aussi trop occupés à être dans la nature et être au cœur, en fait, finalement, du monde végétal. Ce que j'ai adoré, en fait, chez eux, c'est leur rapport à la nature. C'est que, au contraire de l'agriculture, en fait, c'est un rapport à la nature où on attend que la nature nous donne. C'est ce côté mère nourricière plutôt que l'homme qui veut, si tu veux, contrôler la nature. Et je trouve que ça, dans cette conscience écologique, je trouve que c'est aussi hyper intéressant et c'est un vrai changement de mentalité, je pense, à avoir aujourd'hui dans notre approche écologique.
Mais la cueillette sauvage, elle pouvait s'appliquer au monde des cosmétiques ? Parce que quand tu parles comme ça de cueillette sauvage, on pense à l'alimentation, les remèdes éventuellement, comme tu le disais, mais est-ce que ça s'applique aux cosmétiques ?
Alors oui, ça s'applique aux cosmétiques. Alors en fait, la plante sauvage, nous aujourd'hui, on prend de la sève de bouleau, donc directement dans la forêt, et du bourgeon de hêtre. Et ensuite, en fait, on a trouvé un extracteur de matières premières, qui là aussi utilise un procédé hyper innovant sans solvant pour justement toujours avoir ce 100% naturel qui nous permet, c'est une extraction à l'eau subcritique qui nous permet en fait d'avoir un extrait hyper concentré en actif et qu'on va ensuite pouvoir incorporer dans les formulations. Donc en fait, c'est important de le dire aussi parce que du coup, notre démarche, elle a vraiment été, tu vois, de l'arbre à la peau, mais c'est vraiment, on a reconstitué, si tu veux, recréé toute la chaîne de valeur. Parce que aussi, il faut le savoir, bien souvent dans la cosmétique, y a des acteurs qui achètent des formules toutes faites aussi avec chez des sous-traitants et qui collent juste une étiquette. Là, il y a vraiment un vrai travail derrière. Pour être au plus près, en fait, d'une vraie naturalité.
Et comment est-ce que tu as pensé à utiliser le bouleau ou le hêtre en cosmétique ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense que j'ai appris énormément sur les plantes, que ça soit par ma mère ou aussi chez L'Occitane. J'avais eu l'occasion de lire énormément de livres sur les plantes. Et après, en fait, tout simplement, j'en ai parlé avec les cueilleurs sur justement les ingrédients qui étaient le plus souvent utilisés, parce qu'en fait, souvent, ils sont eux-mêmes enfin j'allais dire consommateur, utilisateur en tout cas, voilà, de plantes justement pour se soigner. Et donc en fait, le bourgeon de hêtre, c'est l'arbre, l'arbre de vie. Donc c'est tout ce qui va agir sur la régénération. Et c'est tout le domaine de la gémothérapie. Donc c'est la science des bourgeons, où dans le bourgeon tu retrouves toutes les cellules souches en fait de l'ensemble de l'arbre. Et en fait, je voulais aussi revenir aux fondamentaux finalement de la dermatologie, qui est pour avoir une belle peau, en fait, faut avoir un bon processus naturel de renouvellement de la peau, parce que la peau, en fait, c'est comme les cheveux, les ongles, ça pousse entre guillemets, voilà. Et donc, pour avoir cette bonne régénération, c'était les deux ingrédients qui étaient les plus intéressants d'un point de vue études. Bibliographie du coup sur le sujet.
Et donc une fois que tu as eu ces deux ingrédients en tête, tu t'es tout de suite lancé dans la confection de cosmétiques, tu t'es rapproché d'un laboratoire. Est-ce que tu as aussi essayé de faire comme ta maman tes propres formules?
Non, alors pour le coup non, parce que j'ai voulu tout de suite passer par un laboratoire, parce que c'est vrai que passant aussi dans des grands groupes comme L'Oréal, j'étais assez sensibilisée à au côté innocuité, conservation, enfin voilà. Et pour moi, c'était un autre point qui était la sécurité aussi des formules, qui est extrêmement important. Donc, je suis passée du coup par un laboratoire avec qui qu'on a vraiment choisi pour travailler en partenariat avec eux. Pour être très transparente, en fait, j'en ai rencontré plusieurs. Et en fait, personne ne voulait prendre ce challenge du 100% naturel avec les exigences aussi de sensorialité qu'on voulait avoir. Et voilà, il y a un labo qui a justement pris le pari avec nous de le faire. Et on a vraiment travaillé main dans la main pour pouvoir obtenir vraiment des très jolies textures et qu'on ne puisse pas se rendre compte en fait que c'est du naturel.
Tu avais déjà une idée des produits que tu voulais concevoir ?
Alors, je voulais revenir à vraiment des produits essentiels. En amont de la marque, j'ai fait énormément aussi de groupes, de consommatrices, enfin de filles, voilà, qui étaient dans mon entourage et à qui je demandais comment elles utilisaient des produits cosmétiques. Et en fait, ce qui revenait toujours, c'est j'aime ma crème. C'était la base. La base, j'aime ma crème. Je me démaquille. Parfois, je fais le soir et voilà, de temps en temps, un petit gommage et voilà. Et en même temps, j'en ai marre d'avoir 36 000 produits dans mon étagère que j'utilise jamais. En plus, après, je jette. Voilà. Et puis après, c'était ce côté aussi anti-gaspillage, hein, tu vois. Quand tu me parlais de l'écologie, etc., je me disais, mais je vais pas produire, en fait, créer des produits qui m'ont resté sur une étagère. Et j'avais l'impression, je ne sais pas comment dire, d'entasser le monde de...
Tu n'avais pas envie de ça du tout.
Non, tu vois, exactement. Je voulais vraiment donner des produits qui soient utiles. Donc, tu vois, aujourd'hui, on s'est lancé avec que trois références, ce qui est assez rare, en fait, parce que dans les cosmétiques, la norme, c'était de lancer 20 références, 30 références, voilà. Donc, c'était un vrai pari, en fait. Donc, on a une huile démaquillante, une crème de jour et une huile de soin. Donc, qu'on peut utiliser notamment la nuit. Et depuis, tu vois, on a lancé un masque exfoliant pour le visage et une crème pour les mains, qui est aussi à la base de tout rituel que tu dois avoir.
Donc ça reste un développement modéré des produits.
Exactement, modéré. Et tu vois, par exemple, on nous a beaucoup demandé aussi un soin pour le contour de l'œil. Aujourd'hui, on n'est pas forcément convaincu qu'il faille avoir un produit spécifique pour cette partie et cette zone du visage, et que notre crème est très efficace aussi pour le contour de l'œil. Donc, on a décidé aujourd'hui de ne pas en développer, par exemple. Donc, on essaye vraiment de lancer des produits si on est vraiment, si notre communauté nous l'a demandé et qu'on co-crée avec elle, et deux, si on est aussi vraiment convaincu que ça peut apporter vraiment quelque chose aux clientes.
Il faut que le produit réponde à un besoin.
Exactement.
Et donc, si on revient à ces ingrédients 100% naturels, donc tu l'as dit, en cueillette sauvage, tu utilises le bouleau et le hêtre. Et après, qu'est-ce que tu utilises d'autre comme ingrédient? Qu'est-ce que vous utilisez d'autre?
Alors après, on utilise notamment des huiles végétales.
Mmh. Oui, parce que j'ai vu sur votre site qu'il n'y avait pas d'huile essentielle.
Non.
On reviendra sur ça, ça m'intéresse beaucoup.
Ouais. Ouais. Donc en fait, on utilise des cocktails d'huile végétale, donc on a beaucoup d'huile de prune, d'huile d'amande. Enfin, d'amande douce, on a de l'huile de chanvre, de l'huile de bourrache, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol.
Donc des huiles françaises pour l'instant.
La plupart des. Ouais. L'huile de, il y a des huiles de noisette aussi, de pépins de raisin. Donc la plupart des huiles sont made in France. Ouais. Quasiment, je crois qu'il y a juste l'huile de noisette qui est torréfiée. Au Maroc, mais qui est pressé en France. Sinon, tout le reste, c'est que des huiles françaises.
D'accord, donc tu avais fait aussi ce choix de ne pas aller vers des huiles, par exemple, huile d'avocat, huile de macadamia, qu'on a du mal à trouver localement, même en Europe, on a du mal à en trouver.
En fait, c'est, pour moi, c'est, tu vois, je me disais, si je prends de la sève de bouleau et du bourgeon de hêtre dans les forêts qui sont à côté de chez nous, ça me paraissait incohérent, tu vois, d'aller chercher des huiles qu'on pourrait avoir, tu vois, en France et qui pourraient faire le job, on va dire. Ceci étant, tu vois, on a par exemple du karité dans la crème main. Bon, après, le karité, c'est difficile de trouver un substitut, tu vois, au karité. Et puis, au final, pour être allé au Burkina Faso avec l'Occitane et d'avoir rencontré des femmes qui travaillent pour le karité, c'est aussi un moyen de soutenir des filières économiques au niveau local. Donc, voilà, je pense qu'après, il faut trouver... Le juste équilibre pour que ça ait du sens.
Quel est le premier produit que vous avez créé avec ton laboratoire?
Alors, le premier produit, dans les trois, ça a été la crème de jour. Ça a été un gros challenge, en fait. Comme c'est une émulsion, du coup, c'est y a de l'eau. Donc, c'est le défi, en fait, c'est de pouvoir avoir une bonne conservation et en même temps d'avoir un juste équilibre dans la formule pour avoir une belle texture et que ça soit agréable à regarder, à prendre au doigt, à appliquer, etc.
Des crèmes qui pourraient être certifiées bio pourraient quand même contenir des éléments synthétiques.
En fait, tu vois, nous, nos produits sont tous bio. Ils sont tous certifiés bio parce que pour nous, ça devrait être la nouvelle norme. Et nous, on veut vraiment construire les cosmétiques de demain, qui devraient être celles d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et tu vois, dans le bio, c'est à 95% d'origine naturelle. Donc là, tu vois, on va beaucoup plus loin avec l'idée du 100%.
Et quelle est la différence entre un cosmétique naturel et un biologique? C'est seulement la certification, c'est la quantité d'ingrédients utilisés?
Il y a deux dimensions. Il y a la dimension naturalité, donc à 95% d'origine naturelle. Il y a la dimension traçabilité, parce qu'il faut que 10% minimum des ingrédients soient certifiés biologiques. Et après, il y a encore une autre dimension, c'est la dimension packaging. Je pourrais pas te dire exactement, parce que je sais que nous, ça aussi, on pourra en parler, mais on a un parti pris assez fort aussi sur les packaging, donc voilà, mais ils regardent ces trois dimensions là qui sont les dimensions principales en fait pour regarder l'impact finalement qu'un produit peut avoir, que ce soit sur la santé ou d'un point de vue écologique.
Pour les packaging, je voulais justement qu'on aborde la question, donc tu fais la transition, c'est parfait. Vous avez fait le choix de packaging en verre principalement. Oh, alors, pas pour la crème pour les mains, mais on va dire que les premiers produits qui ont été lancés, c'était des packaging en verre. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là?
Alors ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, je ne me voyais pas créer des produits qui allaient rester tu vois, dans une salle de bain et polluer la planète. En fait, de la même manière, j'ai une prise de conscience où je me dis, mais je ne peux pas créer quelque chose ou créer un monde de plastique. Et c'était même avant, aujourd'hui, toutes les polémiques, voilà, où on voit le plastique dans l'océan, etc. Enfin, c'était bien avant même ça. Enfin, ça me paraissait vital en fait, puisque de se dire c'est vraiment ce que veut le consommateur, etc. Enfin,
puis dans la pharmacie de ta mère, j'imagine qu'elle avait ses pots traditionnels.
Exactement. D'ailleurs, elle avait des boîtes en carton aussi. Enfin, on utilisait beaucoup moins du coup le plastique. Du coup, on a pris le parti d'aller sur du verre parce que c'est le matériau aujourd'hui qui est le plus facilement recyclable. On a encore des bouchons en plastique, hein, mais on aimerait bien sûr aller plus loin et on reste très alerte pour voir ce qui se fait de nouveau pour pouvoir avoir des alternatives. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a peu de choses, mais je pense que vu la demande, il va y avoir des choses.
Ça prend un peu de temps, mais ça va venir.
Ouais, voilà. Je suis assez optimiste là-dessus.
Avec cette gamme de cosmétiques, est-ce que tu voudrais l'élargir? J'imagine que oui, tout en restant assez raisonnée. J'avais après une autre question qui était de savoir si la cueillette sauvage était compatible avec une extension de ta marque et un développement plus général.
Alors, du coup, pour la partie sur l'offre produit, en fait, on veut rester dans cette démarche vraiment
minimaliste,
avec une vision très claire, en fait, d'être vraiment dans la fonction du produit. Voilà, donc pour l'instant, on est voilà, sur le soin visage, on pourrait aller sur d'autres types de catégories. Toujours voilà, avec un nombre limité en fait, de nouveautés. Et puis, on préfère construire aussi des grands produits. Parce que c'est ça en fait qui est le plus important, c'est que chaque femme trouve le bon démaquillant, la bonne crème. C'est notre approche. Et après sur la partie cueillette, en fait, on nous pose, c'est vrai, souvent la question de la cueillette durable. Et c'est vraiment important de comprendre que finalement en fait les cueilleurs, ils ont déjà cette approche en eux parce qu'ils sont dans une cueillette responsable. Et ils savent que s'ils veulent continuer à cueillir l'année suivante, il faut que la nature puisse se renouveler, se régénérer. Voilà. Donc en fait, c'est un savoir-faire. Justement, c'est ce savoir-faire des cueilleurs qui se transmet. Parce que ça qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'école pour devenir cueilleur. En fait, c'est l'apprentissage se fait par la pratique et par la transmission. Je cherchais un mot que j'aime beaucoup, la transmission. Et justement, pour savoir quand cueillir, où cueillir, quelle quantité cueillir. Voilà, donc ça, c'est du côté des cueilleurs. Et après, un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on le sait pas forcément, mais il y a beaucoup de plantes sauvages qui sont déjà utilisées par l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc c'est déjà aussi des filières qui sont bien organisées. Et donc voilà, donc on est assez confiant sur le fait que ça puisse accompagner aussi derrière notre développement.
Oui, donc cueillette sauvage n'est pas incompatible avec durabilité.
Pas du tout. Après, j'allais dire pas du tout, mais parce qu'il faut trouver aussi les bonnes personnes qui suivent aussi ces guides de bonnes pratiques et cette éthique, on va dire, de cueillette. En France, il y a un vrai savoir-faire, je pense, de la cueillette. Après, dans les autres pays, voilà, dès qu'on s'éloigne aussi, on est plus loin, on peut moins voir aussi ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que nous, notre cueillette, on veut vraiment la garder aujourd'hui en France.
Elle a lieu où en ce moment ?
Alors en fait, on a la sève de bouleau qui vient d'une forêt en Gironde. En fait, ce sont des particuliers qui étaient amoureux du monde végétal et qui ont décidé en fait, d'acheter la forêt qui était à côté de chez eux pour pouvoir justement tirer tous les bienfaits. Et ensuite, on travaille aussi pour le Bourgeon de Hêtre avec une coopérative de cueilleurs qui vont cueillir principalement dans le Massif central.
Donc, tu peux t'y rendre facilement,
exactement.
Les rencontrer.
Exactement, ouais.
Ça, c'est quelque chose qui était important pour toi aussi, la traçabilité. Après avoir travaillé chez L'Occitane, c'était resté...
Exactement. Alors, j'aime bien comprendre les choses à la base. Donc, ça, c'était hyper important. Et puis aussi parce que je trouve que cette aventure, c'est aussi une histoire de rencontre et d'aventure humaine. Et donc c'est important, encore plus important justement d'aller voir les gens qui participent finalement au cœur au cœur de nos formules, au cœur des produits, quoi.
Ça crée aussi une relation de confiance et...
C'est essentiel.
Comment est-ce que tes produits ont été accueillis par tes consommateurs, consommatrices? Comment est-ce que tu as fait pour les diffuser, les faire connaître? Parce qu'il y en a beaucoup des marques aujourd'hui, donc c'est pas évident, j'imagine.
C'est vrai que c'est un enjeu important. Alors nous, en fait, dès le départ, on a été très présents sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram. Et on a voulu construire une communauté qui nous a rapidement suivis, en fait, sur nos engagements et sur notre manière... de penser et de concevoir la beauté, bien sûr d'un point de vue formulation, on en a beaucoup parlé, mais d'un point de vue aussi écologique, d'un point de vue aussi, parce que pour moi c'est ça, c'est penser l'ensemble de la beauté, de la manière de faire la beauté, on va dire. Donc c'est aussi dans le ton de communication, dans les femmes qu'on a aussi envie de mettre en avant, voilà, c'est tout ça. Et je pense qu'il y avait un peu un ras-le-bol aussi de la part de beaucoup de femmes qui cherchent des alternatives, en fait, à la cosmétique traditionnelle, et du coup qu'on retrouvait, je pense, en nous, voilà, une manière de faire qui est différente et en même temps dans un côté toujours de bien-être et de plaisir. On n'est pas du tout dans une approche militante parce que pour moi, je veux toujours que ça soit dans la cosmétique, c'est de l'intimité, c'est de la douceur. Voilà, c'est un petit cocon aussi qu'on vient apporter et j'ai envie de garder aussi ce côté-là.
Et est-ce que les produits sont distribués dans certains magasins ou uniquement sur Internet ?
Alors, aujourd'hui, les produits sont distribués donc, sur nos sites e-commerce et aussi dans des points de vente physiques.
Concept Store.
Voilà, exactement. Concept Store, soit indépendant, soit on est par exemple chez Merci, aux Galeries Lafayette, voilà.
Ça, c'était quelque chose que tu maîtrisais déjà ou tu as dû te rapprocher de professionnels pour t'épauler sur cette partie-là ?
Non, alors c'était une partie qui n'était pas dans mon périmètre, dans mon précédent job. Voilà, après, j'y suis allée voilà, en prison.
Ouais,
c'est ça. Faut pas se poser trop de questions et voilà, et se dire qu'on a juste envie de partager une histoire, envie de partager des engagements. Et quand je pense qu'on a quand on a des bons produits, on a la qualité, on a de la sincérité. En fait, ça fonctionne, quoi.
T'avais peur de rien, t'étais au bon endroit, au bon moment.
Ouais, alors après, je pense qu'effectivement, c'est exactement, il y a aussi ça. Après, je trouve que, tu vois, ce qui est le plus satisfaisant, en fait, dans cette aventure, c'est de se dire qu'on se lance parce qu'on a des convictions personnelles profondes et de sentir ensuite quand on les met à nu parce que voilà quand on lance la marque qu'on a spontanément des personnes en fait qui nous rejoignent parce qu'elles leur partagent les mêmes convictions, c'est vraiment voilà, c'est vraiment exceptionnel, quoi.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Comme d'habitude, de toute façon, j'indiquerai dans la description de l'épisode tous les liens vers votre site où il y a beaucoup d'informations et vous avez un blog aussi qui est assez riche et votre compte Instagram bien sûr et puis à bientôt. Merci.
Merci beaucoup Jeanne, à bientôt.
Salut. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant des étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute, mais également en me partageant votre écoute sur les réseaux sociaux. Retrouvez Basilic sur Instagram ou Twitter, @basilicpodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.